RFI 6h30 à Paris, 8h30 à Addis Abeba. Le journal, avec vous, Paul Lonsin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Nemo Ampis, bonjour à tous.
Et à la une, le sommet de l'Union africaine en Éthiopie qui n'a pas répondu aux attentes congolaises sur la situation dans l'est de la RDC.
Oui, les pays membres de l'UA qui étaient réunis à Addis Abeba ce week-end ont réitéré leur appel au retrait du M23 de RDC. Alors que le groupe armé est entré dans Bukavu, au sud Kivu hier, l'organisation n'a en revanche pas condamné explicitement le Rwanda, soutien du M23. Au Gabon, la santé du président déchu Ali Bongo inquiète ses proches de plus en plus, alors qu'il est retenu en résidence surveillée depuis 18 mois. Son oncle Jean-Boniface Asselé, ancien ministre d'Omar Bongo, appelle ce matin sur RFI les autorités de transition à revoir leur position. Une attaque terroriste dans le nord du Bénin. Selon les sources sécuritaires jointes par RFI, 6 soldats ont été tués dans la zone dite du point triple à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Le JNIM, qui a revendiqué l'attaque, évoque 8 militaires abattus. Et puis on s'intéressera également dans ce journal à ces difficultés pour certains citoyens maliens afin d'obtenir des visas vers l'Europe avec le nouveau passeport lancé par l'Alliance des États du Sahel. Des silences gênés et pas de position commune trouvée. Ce week-end, à l'issue d'un sommet organisé à Addis Abeba, en Éthiopie, les membres de l'Union africaine n'ont pas réussi à s'entendre sur beaucoup de points concernant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Rendez-vous qui se tenait alors que le M23, soutenu par le Rwanda, est entré hier dans Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Les représentants congolais ont fait part de leur insatisfaction. Aucune sanction ni condamnation commune et claire de l'implication du Rwanda n'a été annoncée. Récit de notre envoyé spécial, Florence Maurice.
Un seul pays, le Burundi, a plaidé à huis clos ce dimanche pour que les chefs d'État condamnent le Rwanda en conclusion de leur sommet. Mais dans la salle, personne n'a rebondi, raconte un participant. Dans les couloirs aussi, beaucoup ont évité le sujet ou choisi de l'évoquer en des termes très flous. Le Kenyan Raila Odinga, interrogé par une journaliste, a tout simplement répondu « je ne veux pas en parler ». Il faut dire que la réunion du Conseil paix et sécurité de vendredi consacrée à cette guerre a été explosive. La RDC a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda pour son agression, je cite. Furieux, le président Kagame a rejeté l'entière responsabilité du conflit sur la RDC. Une tension telle que la conférence de presse prévue à l'issue a été annulée et que 48 heures plus tard, le communiqué final n'a pas encore été publié. Dans l'après-midi, le commissaire paix et sécurité, Bankole Adeoye, a tout de même donné une conférence de presse pour appeler au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées. Il n'a pas mentionné le Rwanda. Côté congolais, on se félicite que Kigali n'ait pas obtenu le siège que le pays briguait au sein de ce conseil paix et sécurité. Un vote sanction, selon certains analystes, même si d'autres facteurs ont pu jouer et que l'influence de Paul Kagame au sein de l'UA reste très importante.
Florence Maurice. Et alors que se déroulait ce sommet de l'UA en Éthiopie, je vous le disais, le M23 soutenu par l'armée rwandaise a donc pris position hier matin dans Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, présence confirmée également par un porte-parole de l'armée congolaise. Une évolution qui pose désormais la question du sort des déplacés dans les environs de Bukavu et les territoires proches. Pour le moment, impossible de réellement l'évaluer, cette situation, tant la situation de terrain est changeante, selon François Morillon. Il est le chef de la délégation du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge.
Un certain nombre se sont déplacés vers la région d'Ouvira, vers Fizi, voire vont traverser la frontière. Certains vont certainement décider de revenir, mais on fait face à une situation qui est trop volatile et mobile, avec aussi une présence importante d'hommes en armes dans toutes ces régions. Donc il va falloir un peu que la situation se stabilise pour que nous soyons en mesure de mener des évaluations. À titre d'exemple, pour la région de Goma, nous allons mener à partir de lundi nos premières évaluations du sort des populations déplacées dans différentes zones aux environs de Goma. Donc, comme vous pouvez le constater, ça prend un certain temps jusqu'à ce que la situation se stabilise et puis surtout, on se concentre sur toutes les activités qui peuvent sauver les vies. À ce titre, j'aimerais souligner que à Bukavu, nous avons pris la charge de 15 enfants non accompagnés que nous allons garder et protéger jusqu'à ce que nous soyons en mesure de retrouver leur famille pour les réunifier avec ceux-ci ou celles-ci.
Des propos recueillis par Amélie Tullet, François Moreillon, chef de délégation du CICR, donc basé à Kinshasa, qui tient à rappeler que toutes les parties ont le devoir de respecter les vies et les biens des civils, même en situation de conflit. Cette instabilité autour de Bukavu, au sud Kivu, dont les conséquences se font sentir jusqu'à une quarantaine de kilomètres au sud, à la frontière entre Bugarama au Rwanda et Kamanyola en République démocratique du Congo. Un poste frontière qu'il était interdit de traverser ce dimanche. C'est un reportage de Lucie Mouillot.
À l'ombre de son camion, assis avec d'autres conducteurs, Nicolas Mouemedi attend depuis deux jours de pouvoir traverser la frontière pour rentrer à Uvira.
Nous sommes coincés, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On est arrivé ici hier, on a attendu seulement des coups de balle. Alors on nous a dit, les policiers, d'évacuer les véhicules qui étaient ici pour aller de l'autre côté.
Au poste frontière, les agents de l'immigration congolaise ont été aperçus pour la dernière fois vendredi. De nombreux tirs étaient entendus jusqu'à Bugarama ces derniers jours, affirment de nombreux habitants, comme Amos Gamidje.
Personne n'a traversé ni ce dimanche, ni samedi. Il y avait des criminels qui voulaient voler et piller. Ils tiraient dans leur pays, mais ici, il n'y avait pas de problème.
Une situation plus apaisée dans la journée de dimanche où les activités ont repris à Bugarama. Son enfant dans les bras, Tarsila Nirachirambere sort de nouveau dans les rues, rassurée par le calme apparent.
Ici à Bugarama, les choses vont mieux aujourd'hui. Mais samedi, nous avions peur. Nous étions enfermés et personne ne bougeait. Certains pensaient à fuir, mais les tirs se sont arrêtés dans l'après-midi et nous avons décidé de rester.
Depuis la rivière de Rusizi, qui sépare le Rwanda et la plaine de Kamanyola en RDC, presque personne n'était visible sur les rives congolaises ce dimanche. De larges déplacements de population ont été signalés vers le sud, pour beaucoup trouvant refuge au Burundi. Lucie Mouillot, de retour de Bugarama, RFI.
Au Gabon, à présent, les proches d'Ali Bongo sont de plus en plus inquiets pour l'ancien président. Des membres de la famille du dirigeant déchu lors du coup d'État du 30 août 2023 réclament désormais une amélioration de son sort. Officiellement, aucune poursuite n'a été lancée à son encontre, mais de fait, il vit en résidence surveillée depuis qu'il a refusé de quitter le pays sans son épouse et son fils qui, eux, sont en prison. L'oncle maternel d'Ali Bongo, Jean Boniface Asselé, qui a longtemps été ministre et chef de la police d'Omar Bongo, eh bien pour cette figure de la politique gabonaise, les autorités de la transition doivent désormais reconsidérer le cas de l'ancien dirigeant après 18 mois dans cette situation.
Vous savez, l'histoire d'Ali, en ce moment, je suis triste, c'est vrai, mais je suis quand même son oncle. Chez nous, c'est important. Il est gardé. J'y vais de temps en temps le voir. J'aurai le temps peut-être de demander aux responsables politiques du pays, de leur dire, si jamais Ali a fauté, ben, faut le punir. Ben, si vous pensez qu'il n'a pas fauté, là, ben, surtout que lui-même, il a désisté qu'il ne fera plus la politique. Il est arrivé, il est au pouvoir. Bon. Il a failli à sa tâche par moment, d'accord. Bon, on a fait un coup honorable, bien sûr. Mais lui, il est sorti de là. Nous sommes quand même aussi les parents, nous avons aussi essayé de venir aux côtés de notre enfant, tout le monde, pour leur dire, enfin écoutez, nous allons le prendre, on va discuter avec.
Les propos de Jean Boniface Asselé. La zone du Point Triple dans le nord du Bénin, touchée par une attaque djihadiste meurtrière. De sources sécuritaires béninoises, 6 soldats ont été tués dans un assaut sur une position stratégique de l'armée située dans le parc W aux alentours de Karimama. C'est à 750 km au nord de Cotonou. Une quinzaine d'assaillants ont été abattus, toujours selon ces sources. Le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a revendiqué l'attaque et avance, lui, un bilan de 8 soldats décédés. C'est dans ce même secteur que 30 soldats avaient été tué en début janvier dans ce qui est considéré comme l'attaque la plus sanglante depuis le début de l'opération antiterroriste Mirador. Enlevé dans ce même parc national W, côté nigérien, un otage a donné un signe de vie pour la première fois depuis son enlèvement. Le haut fonctionnaire Alassane Souleymane avait été capturé le 11 janvier dernier par le GNIM, justement. Le message qu'il lit dans une vidéo a été diffusé ce week-end sur les réseaux sociaux. Il demande désormais aux autorités nigériennes d'intervenir pour sa libération, mais aucune exigence des ravisseurs n'a toutefois été formulée. Le Niger, l'un des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, un trio qui a quitté en parallèle la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et parmi les changements que cela implique, il y a par exemple la mise en circulation d'un nouveau passeport, sauf que ce nouveau document engendre parfois des complications administratives. Au Mali, par exemple, les détenteurs de ce passeport n'arrivent pour le moment pas à obtenir des visas pour des pays européens, Serge Daniel.
Parmi les témoignages, celui d'un fonctionnaire malien du ministère de la Santé à la retraite. Avec son dossier, il s'est rendu à Bamako dans un consulat pour solliciter l'obtention d'un visa Schengen qui permet de circuler dans 26 pays européens. Il retourna à la maison bredouille, visa non délivré, dit-il, à cause de la nature de son passeport estampillé Alliance des États du Sahel, AES. Interrogés séparément par nos soins, deux consulats de pays européens à Bamako expliquent les raisons du refus. Il n'y a pas de problème de reconnaissance du passeport AES, mais il y a côté malien un retard de dépôt auprès des ambassades et consulats de spécimens, c'est-à-dire de passeports témoins pour la reconnaissance des nouveaux titres. C'est après cette opération qu'on pourra poser les visas, expliquent nos interlocuteurs. Côté malien, dans un communiqué, le ministère de la Santé affirme que toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisis du lancement du passeport AES et que les spécimens physiques ont été transmis. Comme si le ministère reconnaît que le mécanisme n'est pas encore totalement huilé, il demande aux détenteurs des nouveaux passeports de les saisir en cas d'éventuelles difficultés. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Au Togo, le parti présidentiel Unir remporte les élections sénatoriales, 34 sièges sur 41, d'après les résultats provisoires, un scrutin qui était en fait boycotté par une partie de l'opposition. Il s'agissait de la dernière étape avant l'application de la nouvelle constitution, critiquée par les détracteurs du président Faure Gnassingbé, qu'ils accusent de vouloir se maintenir au pouvoir en devenant président du conseil d'un nouveau régime parlementaire. Et puis après les hydrocarbures, Ali Dangote s'intéresse de nouveau au ciment. L'homme le plus riche d'Afrique avait fini par ouvrir une immense raffinerie au Nigeria en septembre. Elle doit arriver à pleine capacité le mois prochain. Désormais, le nouveau projet du milliardaire se trouve en Éthiopie. Il s'agit de doubler la capacité de sa cimenterie ouverte dans le centre du pays il y a 10 ans. Justine Fontaine, plusieurs centaines de millions de dollars sont sur la table.
En marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le milliardaire nigérian a annoncé que son groupe prévoit de dépenser 400 millions de dollars dans sa cimenterie au nord de la capitale éthiopienne, rapporte l'agence Bloomberg. Le groupe est déjà leader du ciment en Afrique et cet investissement doit permettre d'ici fin 2027 de multiplier par 2 la production de l'usine pour passer à 5 millions de tonnes par an. Cette cimenterie, qui fut un temps la plus grande du pays, a ouvert en 2015, mais elle a connu de nombreuses difficultés en raison de l'instabilité dans la région. En 2018, 3 employés, dont le directeur du groupe en Éthiopie, avaient ainsi été abattus à proximité du site. Aliko Dangote prévoit aussi de construire une nouvelle usine de broyage de ciment près d'Addis Abeba et d'augmenter ses investissements dans la production de sucre. Avec les engrais ou encore le raffinage de pétrole, c'est l'un des secteurs d'activité privilégiés par le groupe sur le continent.
Justine Fontaine et Nemo en piste tout de suite pour RFI.